Hashem, notre deuxième cours sur le sixième chapitre de Shaar Eichud Ve'emouna. Pour rappel, le thème qu'on a commencé à développer la semaine dernière, dans le chapitre 6, on s'est arrêté longuement sur la définition, pardon, 80. On a commencé, chapitre 6. On a expliqué longuement la définition du nom Elohim. La différence entre le nom Hachem et le nom Elohim. On a expliqué que le nom Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Puisque le nom de Elohim, c'est justement comme la nature qui est un écrin qui voile finalement l'énergie divine. C'est-à-dire que quand il y a un phénomène naturel qui arrive, il pleut, il vente, il neige, etc., qu'est-ce qu'on va dire? On dit, ah, c'est la nature. Mais en vérité, la nature, c'est qu'un écran, c'est quelque chose qui te cache, mais qui te, c'est l'énergie divine qui est derrière tout ça. De la même façon, Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la valeur numérique de la nature. Ça, on avait expliqué longuement la semaine dernière. On avait expliqué un deuxième point aussi, sur lequel on s'est arrêté longuement, la notion de Itkalelut Amidot. Comment les Midot, les traits de caractère, doivent forcément être, je sais pas comment on a traduit ça la semaine dernière, inclus, composés les uns avec les autres. Inclus les uns des autres. On avait expliqué longuement que une bonté sans rigueur n'est pas une bonté.
Liée.
Et enchevêtrée, etc. Et une rigueur sans bonté n'est pas une rigueur. Il faut que chacun, on doit être l'un avec l'autre. Seulement, la complexité par rapport à Kadosh Baruch Hu, et c'est justement, Eliyahu Navi, il en parle dans un texte qui est cité à son nom dans le Zohar.
Tout est rassemblé.
C'est que chez Kadosh Baruch Hu, tout est rassemblé, mais c'est pas un être composé. C'est-à-dire chez moi, ça me dérange pas d'avoir un élément et son contraire. Parce que je suis un être composé. Donc un être composé, je peux avoir le plus et le moins, j'ai pas de problème avec ça. Chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu n'est pas un être et il n'est pas composé. Et donc là c'est compliqué parce que comment tu peux expliquer qu'il est la bonté et la rigueur en même temps alors qu'il n'est pas un être composé? Et sur ça, on a dit que Eliyahu Navi lui-même, il a dit, ça, c'est quelque chose que aucune pensée ne peut le comprendre. L'être humain ne peut pas comprendre ça. Mais au moins, on comprend que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est comme ça. Ok. Alors bon, j'avais expliqué une bonne partie à l'oral. Donc on est en haut de la page, Vezeu Sheketuv. Vezeu Sheketuv, Vashevota, bonsoir, ça va? Vezeu Sheketuv, Vashevota El Levavecha, Ki Hashem ou Elohim. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit.
C'est Dieu. Bonsoir tout le
monde. Vashevota El Levavecha, garde en ton cœur, Ki Hashem ou Elohim. Que l'Éternel est Elohim. Vous vous rappelez, j'ai cité, on n'a pas développé encore, mais j'ai cité qu'un des moments les plus forts de Yom Kippour, c'est le moment à la fin de la Nehila où on va scander, on va déclarer très fort Hashem Hu Elohim. Maintenant, quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis un élément très simple. Tu dis Hashem Hu Elohim.
C'est une évidence.
L'éternel est Dieu. Ok, mais vous connaissez quelqu'un qui pense que l'éternel, c'est pas Dieu? Ok. Et ça, en vérité, là, ça nous ramène à une autre question qu'on a posée au tout début de Shaar Eichud Ve'emouna. Une question sur le Shema Israël. Shema Israël, c'est le texte le plus central du judaïsme, on est d'accord? Donc, c'est quoi le Shema Israël? On dit, ok. Imaginez quelqu'un qui m'a demandé, il dit, bon, alors c'est quoi dans le judaïsme? C'est quoi? Tu dis, ah, Shema Israël. Alors, vas-y, traduis-moi Shema Israël. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Où est le chidouche ici? Où est la nouveauté? C'est en quoi ce matin je me réveillais, je me dirais, ah, tu sais quoi? Peut-être que l'éternel, c'est pas notre Dieu. Mais c'est qui alors? Ou tu crois en Dieu ou tu crois pas. Vous connaissez-vous des gens qui disaient, non, peut-être qu'il y a l'éternel, mais c'est pas notre Dieu. Il y a l'éternel, mais je sais pas qui c'est. Personne pense à ça. Et après, on te dit, l'éternel est un. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a deux dieux. En général, la majorité des gens normaux, c'est où ils disent qu'ils croient en Dieu, ou ils disent qu'ils croient pas en Dieu. Ok? Mais de dire l'éternel est un, on a du mal à comprendre comment tout le judaïsme se limite à ça. De dire, attention, l'éternel est un, l'éternel est un. Et là, l'Admor HaZaken va commencer à répondre à la question et nous donner une lecture complètement différente. Nous, quand on dit l'éternel est notre Dieu, alors on se dit bon, je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui s'appelle Éternel, une autre qui s'appelle Dieu, et c'est la même chose. C'est comme si je disais, je sais pas moi,
Jean-Michel, hein, voilà, c'est la même personne.
Voilà, c'est la même personne, exactement. Je dis, oh, l'Éternel est Dieu, c'est la même personne, exactement. Voilà. Comme si je disais, je sais pas.
Bon, on n'a pas Yaakov et Yehuda nous chez nous, hein, y a pas réunis, mais ils sont pas réunis.
C'est comme si j'ai Charles et Shalom, c'est la même chose. Bon, ok, c'est la même chose. Pas du tout. Maintenant, avec la lecture qu'on a faite dans le seminaire de Netanya, on a une autre lecture, complètement différente. Quand on te dit que Hachem hu Elohim, Hachem est Elohim, on n'est pas en train de te faire une cartographie, de dire l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un, on n'a rien à faire de ça. En tout cas, c'est pas ce qui nous importe. Quand on veut dire Hachem ou Elohim, c'est que Elohim, c'est ce que tu connais. C'est le Dieu tel que tu connais. C'est le Dieu qui se manifeste dans la nature. Et Hachem, c'est le tétragramme, c'est Hachem tel qu'il transcende la nature. Maintenant, nous, on a tendance à penser qu'il y a deux expressions différentes de Hachem. Et c'est pas la même chose. C'est le même Dieu, j'en doute pas, mais c'est pas la même chose. Il y a Dieu tel qu'il se manifeste dans la nature, et il y a Dieu tel qu'il dépasse la nature. Et moi, j'aurais pu penser que, penser que ce sont deux entités différentes. Ou en tout cas, c'est pas la même chose. Il y a Dieu tel qu'il se présente à nous, et il y a Dieu tel qu'il n'est pas limité par tout ça. Et c'est ça, justement, l'erreur qu'on veut t'enlever. On te dit non. Tu fais une erreur de penser comme ça. Parce que si tu penses comme ça, ça veut dire que Dieu est un être composé. Et qu'il y a Dieu tel qu'il se présente, c'est à toi, et il y a Dieu tel qu'il est pour lui-même. On pourrait donner plein d'exemples. Vous savez, par exemple, vous avez la façon comment vous parlez à un enfant. Imaginez que vous devez expliquer une idée à un enfant. Un enfant de 5 ans. Vous ne pouvez pas lui expliquer de la même façon que vous l'aurez expliqué à un adulte de 30 ans. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir adapter votre propos. Ok. Donc, c'est la même personne, le même orateur qui va parler, mais une fois, il va parler à un adulte de 30 ans, et une autre fois, il va adapter son propos à un enfant de 5 ans. Peut-être que l'orateur est le même, mais le message n'est pas le même. La quintessence du message est peut-être la même, mais le message n'est pas le même. Un enfant de 5 ans, tu ne parles pas comme tu parles à un enfant de 30 ans. Donc c'est pas la même forme, ça n'a rien à voir. Donc on a tendance à penser, on dit écoute, bien sûr, j'en doute pas qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu, c'est le même dieu en haut, le même dieu en bas. Mais peut-être qu'il y a le dieu qui parle à l'enfant de 30, il y a Dieu qui parle à l'adulte de 30 ans, et il y a Dieu qui parle avec un autre message à l'enfant de 5 ans. Et nous, c'est l'enfant de 5 ans. C'est une erreur qu'on aurait pu faire. La vérité, c'est une erreur qui est tout à fait plausible. Ça passe très bien, c'est normal. Ça ne serait pas une entrave à la Emouna de penser comme ça. Il n'y a aucun problème de penser comme ça. De la même façon que si moi je dois parler à un enfant, je ne vais pas dire que parce que j'ai adapté mon message à un enfant de 5 ans, ça veut dire que ce n'est pas moi qui a parlé. C'est moi qui a parlé. Mais j'ai adapté mon message. Donc est-ce qu'on pourrait dire de la même façon pour Akadosh Baruch Hu que Dieu, pour créer le monde, et pour parler au Bnei Israël, pour parler à l'humanité en général, et pour créer l'univers, Dieu va adapter son message? Quel Dieu avant le monde et Dieu après le monde? On aurait pu penser comme ça. Et c'est là que vient le Veyadata Hayom. Hachem, hu Elohim. Tu te dis non. Hachem, c'est Elohim. Ah, on n'est pas là pour te dire le nom Hachem, c'est la même personne mais qui est là avant, après. Non. C'est la même chose. Toi, tu crois qu'il y a le Hachem que je connais et Hachem qui est en haut, mais sache qu'en vérité, Hachem, hu Elohim. Ça veut dire quoi, deux secondes? Ça veut dire quoi, hu? En hébreu, ça veut dire quoi, hu?
Lui.
C'est lui! C'est la même chose! On n'est pas en train de dire que Hachem ou Elohim, ça veut dire c'est le même auteur, mais il a écrit un livre pour les nuls et il a écrit un livre pour le public avancé. Non! C'est pas ça, Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, ça veut dire que le même Dieu qui transcende le monde, c'est le même Dieu qui est dans la nature. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Ça, c'est déjà plus compliqué. D'abord, c'est plus compliqué parce qu'on peut pas le comprendre. Je peux pas comprendre comment Dieu, en même temps, il transcende la nature, en même temps, il est dans la nature. Mais c'est aussi plus compliqué en comprenant comment Dieu, d'un côté, il se limite et d'un autre côté, il n'est pas limité. C'est très compliqué, ça. Parce que, d'une certaine façon, Dieu se limite par la nature. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ce matin, par exemple, il pleuvait. Combien de temps il a plu? Il y avait des nuages, de gros nuages qui étaient là. D'accord? Donc, les météorologues ont prévu que la pluie devait durer 2 heures. Ok? On va dire 2 heures. Donc, c'est la nature, ça. Maintenant, qui a décidé qu'il allait pleuvoir pendant 2 heures? C'est Dieu. Maintenant, une fois que les nuages sont là, et que tu as des cumulus qui sont là et qu'ils envoient, ils sont là pour envoyer, c'est la nature qui fait qu'ils doivent envoyer. Est-ce que Dieu pouvait décider après 5 minutes de pluie que la pluie s'arrête, qu'il n'y a plus de pluie, qu'il n'y a plus de nuages? Bien sûr qu'il peut, mais logiquement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, logiquement, il est dans un système où maintenant il y a des nuages, les nuages sont là.
Il y a le vent.
Non, je comprends, mais donc il doit envoyer un autre phénomène pour enlever les nuages.
Le message.
Mais les nuages ne peuvent pas disparaître abracadabra, hocus pocus, ça n'existe pas. Donc quelque part, on a l'impression que Dieu est limité par son système. Maintenant, il y a des nuages. C'est comme ça. C'est-à-dire que, à la limite, je veux pousser un peu le débat. Celui, par exemple, qui, voilà, ce matin, il a la pluie, la grève, etc. Il lève les yeux vers Hachem, il dit Hachem, enlève les nuages. Est-ce que cette fille-là veut dire quelque chose? Elle veut rien dire, cette fille-là. Tu veux dire que c'est quoi, enlève les nuages? Mais on est qu'il arrête de pleuvoir, mais enlever les nuages, c'est pas possible. Puisque les nuages sont là, Hachem a mis les nuages. Vous me suivez? Ça veut dire que, quelque part, on est dans un système dans lequel les faits sont là. Il y a la nature, ça fonctionne, et il y a des réalités. Des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Des réalités, des choses qui sont là avec la nature. Alors, Est-ce qu'on peut dire que Dieu n'est pas limité par ces réalités qu'il a lui-même créées? Si on n'avait pas dit que Hachem ou Elohim, on aurait pu dire, écoute, Hachem, avant qu'il descende dans le monde, il n'est pas limité par quoi que ce soit. Mais maintenant qu'il est descendu dans le monde, maintenant il est limité par la nature qu'il a créée. C'est lui-même qui a créé. Il peut enlever le monde s'il veut, mais maintenant il est limité. Viens le pasouk pour te dire non. C'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au Bnei Israël dans la paracha Vayetranan. Et je traduis. Il dit Ve'yadat hayom, tu seras aujourd'hui. Sache aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchis bien. Va chez Votel et va faire garde dans ton cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois bien travailler sur ça. Qui Hachem ou Elohim? Que l'Éternel est Dieu. C'est quoi l'Éternel est Dieu? Ça veut dire que ce que tu crois être toi, l'Éternel qui transcende et qui dépasse tout, c'est le Elohim qui est dans ton monde. C'est la même chose. Ça veut dire qu'en vérité, rien n'est impossible pour un Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut le comprendre? Non. Mais il faut le savoir. C'est important de le savoir.
Ouais, mais l'exemple de tout à l'heure, les cumulus, ils sont gorgés d'eau, c'est normal qu'ils envoient de la pluie.
Très bien.
Donc c'est pas.
Non, c'est une règle de la nature.
C'est une règle de la nature. Donc Dieu est limité par la règle de la nature qu'il a créée.
Non, pas limité.
Si?
Non, pas limité. Ça veut dire qu'il suit la règle de la nature maintenant, s'il veut la changer, la règle.
Donc Dieu est limité par la règle de la nature. Maintenant, à l'instant où je te parle, il est limité par la règle de la nature.
Non.
Bien sûr.
Non. Puisque c'est lui qui l'a créé, donc il peut la créer ou la changer. Il a créé une règle, il a créé un axiome de base. Après, quitte à lui de rajouter une virgule ou
tant qu'il n'a pas changé l'axiome, il est limité par son axiome. Il est conditionné, si tu préfères le mot.
Non, c'est lui qui a conditionné. C'est pas de la
mais je comprends, mais
c'est pas un état qu'il a créé qui le conditionne.
Concrètement, maintenant, il est conditionné par son axiome.
C'est une règle du jeu qu'il a édité.
Très bien. Ok, il peut changer la règle quand il veut.
Quand il veut.
Mais maintenant, il doit suivre la règle.
T'es pas, il doit suivre la règle. La règle, elle.
Imagine-toi un concepteur de jeu qui a
créé.
Imagine-toi un concepteur de jeu ou de série télé ou de ce que tu veux qui a créé un jeu. Il a créé un jeu.
Mais la nature, elle est automatique.
Seconde, il y a des règles dans le jeu. Il peut modifier les règles s'il veut. Mais tant qu'il y a les règles, le concepteur du jeu suit les règles du jeu. Donc il est lui-même.
C'est les jeux qui suivent les règles du concepteur.
Très bien, mais concrètement maintenant le jeu il tourne.
Ouais, donc il tourne.
Donc le concepteur il lui dit mais attendez, mais c'est moi qui a fait le jeu. Mais on dit mais on en a rien à faire, c'est toi qui a fait le jeu.
Change les règles.
Ah, change les règles. Donc tant que t'as pas changé les règles.
Mais les règles elles tournent.
Les règles sont là. Eh ben non. Sur Akadosh Baruch Hu c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu n'est même pas limité par les règles qu'il a mis en place. C'est ça le chidouche.
Mais d'accord, puisque c'est lui qui les fait.
Non. C'est pas seulement dans le sens que s'il veut, il peut les modifier. Parce que toi tu dis s'il veut modifier, ça veut dire qu'il faut une action encore. Il faut qu'il modifie les règles. Il faut qu'il annule la nature. Dieu n'a pas besoin d'annuler la nature. Et ça, on peut pas comprendre. D'accord. Parce que moi, je peux pas comprendre. Je comprends pas. Ça marche pas. Ça tient pas la route ce que tu dis. C'est naturel.
Tout ce que tu nous racontes depuis le début, c'est obligatoirement avec une action.
Eh ben oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que je comprends pas. Ou tu me dis que Dieu est que ce que je vois devant moi, c'est naturel, ou c'est surnaturel. Mais me raconter que j'ai le naturel et surnaturel et le surnaturel est naturel, je te suis pas.
Même dans Bereshit,
ça marche pas là.
Même dans Bereshit, tu te dis et la lumière fut. Donc c'est bien qu'il y ait une action.
C'est quoi la lumière?
La lumière, c'est la lumière.
Bereshit, bara Elohim, c'est qui a dit que la lumière soit?
C'est Hachem.
Elohim. C'est Elohim. Encore une fois, Elohim.
Mais finalement, c'est lui qui m'introduit dans le questionnement, parce qu'il me dit Hachem ou Elohim. Pourquoi il me donne deux noms? Alors ça veut dire qu'il y a deux fois.
Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'adresse à une génération qui a traversé le désert, qui est sortie d'Égypte, qui a vu des grands miracles. Et même une personne qui est passée par des grands miracles, ça reste un homme, ça reste un être humain. Et donc, cette personne pourrait se dire, il y a le Dieu que j'ai connu à Kippour, à la Neïla, il y a le Dieu que je connais aujourd'hui, le 11 qui se lève, le 12 qui se lève. Okay. Et que c'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu dans l'absolu, mais que dans les faits, c'est pas le même Dieu que je ressens. Il y a un Dieu qui est dévoilé, un Dieu qui est caché. C'est pas la même chose. Une fois, Dieu me parle comme un adulte de 30 ans, et une autre fois, il me parle comme un nourrisson d'un mois. Un nourrisson d'un mois, qu'est-ce que tu veux lui raconter? Tu veux lui parler, comprends rien ce que tu lui racontes. Comprends un petit peu, tu vas lui parler, tu vas faire un sourire, tu vas dire un truc comme ça, tu peux pas lui expliquer un concept. Mais il y a des gens qui vont dire, il y a des moments dans ma vie où je suis plus développé, ma connexion avec Hachem elle est plus puissante, des moments où, Hachem, je sais qu'Hachem existe, mais ma connexion n'est pas là. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, à la fin de son parcours, juste avant de quitter ce monde, il s'adresse au Bnei Israël, il leur dit, Ve'yadat ha'ayom. Faut bien réfléchir, en fait. Va chez Votel et bien le garder dans son cœur. Qui est Hachem ou Elohim? Hachem, c'est Elohim. Le même Dieu que vous avez vu sur le mont Sinaï, c'est le même Dieu que vous avez tous les jours. Qui s'occupe de vous, qui vous fait respirer. Mais pourtant, je ne l'ai pas senti. C'est pas le mot ressenti. Ça, c'est un autre problème. T'as pas ressenti de la même façon, c'est un autre problème. Mais sache que c'est le même Hachem, c'est la même expression d'Hachem, exactement la même, sans aucune différence.
D'accord, mais.
Mais comme a dit Michael, la vérité, c'est que c'est impossible à comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Rappelez-vous, c'est ce que Léonavi. C'est un peu ce que Léonavi a dit dans le cours de la semaine dernière.
Oui, c'est ça.
Il a dit, Let marchavat fisabar. Aucune pensée ne peut te saisir. C'est ça ce qui dérange tout le monde. C'est que si on disait que Dieu est un être composé, ça aurait tout simplifié.
Donc, il n'y a pas d'action, donc.
Non.
C'est une action en continu.
Il n'y a pas d'action, parce que quand tu dis une action, automatiquement, c'est composé. Il n'y a pas d'action. Ok.
Ok, d'accord.
Il faut qu'on développe. Ah, désolé, il n'y a pas de nappe, on ne trouve pas de nappe. Les nappes sont en grève aussi.
Alors, oui. Il me donne plusieurs noms pour Hachem, Elohim, Adonai, etc. Et à la fin, il me dit qu'il est unique. Comment il peut avoir plusieurs noms et être unique en même temps?
Non, il est vrai.
Non, on n'a pas dit. Bien sûr qu'il est unique. Il n'y a pas de question de ce qu'il est unique. C'est ça en vérité le pshat de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est un. C'est quoi Hachem est un? Qui pensait qu'il y avait de Dieu? Personne ne pensait qu'il y avait
de Dieu.
Ce matin, quand vous êtes levé, vous avez une pensée, c'est quoi? Il y en a deux. Vous connaissez beaucoup, vous, de gens qui posent ces questions tous les matins? Moi, je connais les gens qui posent des questions. Est-ce que Dieu, il est là ou il n'est pas là? Mais pensez, est-ce qu'il y en a deux ou pas? Et j'ai déjà assez avec un. J'étais un deuxième.
Oui, c'est vraiment pas.
Seulement, voilà. Maintenant, on comprend. C'est quoi Hachem Echad? Hachem Echad, ça veut pas dire qu'il y a un Dieu et pas deux. C'est pas ça ce que veut dire Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire que Hachem est un dans le sens qu'il n'est pas composé. Il est un. Le un absolu. Il n'est pas composé. Parce que tout ce qui est divisible n'est pas un. Le verre que j'ai devant moi. Imaginons qu'il était vide. Ok? Je dis, bon, j'ai un verre devant moi. Mais c'est faux, j'ai pas un verre devant moi parce que ce verre, je peux le décomposer. Donc j'ai des milliards de particules, des milliards de particules ici. Donc c'est pas un verre. Et pas un. C'est pas le un absolu, ça. Est-ce que le un absolu existe dans la nature? Non. Le 1 n'existe pas dans la nature. Parce que chaque élément que tu vas me donner, je peux te le scinder, le décomposer. Et toutes les quelques années, vous entendez les scientifiques qui vous disent, on a encore décomposé encore un peu plus. Ah. Ça s'arrête pas.
Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas du tout de sous-particules?
Mais que tu peux pas décomposer.
Ça veut dire que le vrai 1, c'est un élément qui est 1. Et qui est 1. C'est pas une composition de plusieurs éléments. Ça n'existe pas chez nous. Et ça, c'est Hachem. Maintenant, ça c'est très difficile à comprendre et à admettre. Te dire que moi je suis HM, toi tu es HM, ça c'est HM, et que bien que moi, toi et la table, on a l'air de trois éléments distincts, en vérité on fait tous partie d'un seul élément qui s'appelle HM. Comment c'est possible?
Et qu'est-ce qu'il a à voir avec la table?
Mais c'est la table, c'est lui la table. Parce que si tu me dis qu'il y a lui et il y a la table, ça veut dire que, ou bien même si tu veux me dire que HM est composé de Monsieur Benita et d'une table, ça veut dire que c'est une composition, Dieu n'est pas composé.
C'est lui.
Et il n'y a rien qui peut être en dehors de lui. Donc c'est la table.
Donc ça veut dire qu'on est un rêve?
Non.
Que notre existence
mais non, même,
est un de ses rêves?
Ça ne règle rien le rêve. Parce que même un rêve c'est composé.
Pourquoi c'est composé?
C'est composé un rêve. Un rêve c'est composé, il y a des détails. T'as les acteurs, t'as les détails. Or pour Hachem on te dit qu'il n'y a pas de composition. Echad!
Okay,
Echad! On ne comprend pas. Mais avec ça on comprend pourquoi tout le judaïsme est basé dessus. Parce que c'est un fondement du judaïsme, c'est de comprendre qu'il n'y a pas le Dieu d'en haut et le Dieu d'en bas. C'est la même chose. Echad.
Alors
normalement. Echad, c'est un. Hachem, où est Elohim? C'est la même chose.
On ne doit pas piétiner.
Hachem, c'est Elohim.
Tu mets-tu le parterre?
On ne doit pas piétiner la table puisqu'il y a Hachem dedans.
Et le parterre aussi.
Et le verre et le parterre.
La chaise, tu es assis.
Comme tu dis, la serpillière.
Tout Hachem.
Alors comment on peut piétiner? Le nom
corps,
de Hachem,
corps, tes cellules,
le nom de Hachem aussi là-dedans, on devrait pas, c'est Hachem dedans, donc c'est sacré, si c'est sacré, c'est intouchable.
Mais vous aussi, vous êtes Hachem.
Toi aussi, tu
faut plus me toucher, hein.
Toi aussi, tu es. Et, non mais, ce qui est indivisible, c'est l'être.
Arrête ton char.
Là, il y a de l'être, c'est indivisible, tu veux pas, c'est l'être, c'est...
Bon, on va continuer.
C'est une généralité, c'est pas mathématique.
Veimken. Alors
on est à la fin là.
Veimken. Veimken, page 80, la page. Veimken, c'est comme ça. Mais Meila Teda. De facto, tu sauras. Chez Bachamay, Mimal, va la résultat ratenot. C'est la suite des paroles de Moshe Rabbeinu. Tu sauras aujourd'hui. Et tu mettras bien dans ton cœur que Hachem ou Elohim. que Dieu c'est Elohim, et que dans le ciel tout en haut et dans la terre tout en bas, Enod.
Il n'y a pas d'autre.
Il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est très très fort ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Nous, quand on a lu ce texte avant le Tania, comment on a compris? On a compris que Moshe Rabbeinu est en train de dire. Bon, on a dit, écoutez, vous pouvez monter tout en haut dans le ciel, vous pouvez aller tout en bas, il n'y a rien d'autre, ça veut dire, il n'y a pas d'autre Dieu. Comme ça, on a compris ce texte.
C'est
et c'est pour ça qu'on se dit, bon, personne n'a pensé que s'il va aller en haut dans le ciel, il va trouver un autre Dieu. Ou que s'il va aller dans l'abîme, il va trouver un autre Dieu. Mais là, le Tania dit, t'as rien compris. C'est pas ça ce que dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire, quand il est en train de dire qu'il n'y a rien d'autre, c'est pas qu'il n'y a pas un autre Dieu. C'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Bien sûr qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est évident, ça.
Pourquoi il a limité à une seule personne, comme Moshe, pour raconter ce qu'il a vu? Il aurait pu transmettre à Abraham.
Non, plus. Ça c'est quelque chose.
Non, mais ça, c'est une parole d'un homme, c'est pas suffisant.
C'est une bonne question.
Ce qu'il a vu Moshe, il va retransmettre, mais
est-ce que les gens. Là, je vais vous expliquer. Là, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui parle.
Mais il l'a vu.
Non, dans la paracha Vaetranan, c'est pas Dieu qui parle. C'est Moshe Rabbeinu qui nous briefe, qui nous explique. Comprenez de quoi on vous parle. Il nous dit, Veyadata Ayom. Il nous dit, comprenez de quoi on vous parle. Vous avez vécu le don de la Torah et vous avez vécu le veau d'or. Le même Dieu que vous avez vu dans le don de la Torah, c'est le même Dieu qui avait le veau d'or. C'est très très difficile à comprendre ça. Parce que si tu ne composes pas Dieu, c'est très difficile à comprendre. Tu vous imaginez ce que je viens de dire là? Le même Dieu qui a vivifié les tables de la loi, c'est le même Dieu qui a vivifié le veau d'or. C'est la même chose.
Parce que la Vera du veau d'or.
Tout. Parce que c'est le même Dieu, il n'est pas composé. C'est la même chose. Très compliqué cette idée là. Ça rend tout compliqué. Ça rend tout compliqué. D'abord, je me pose la question, est-ce que j'ai un libre arbitre? Est-ce que j'ai pas de libre arbitre? Est-ce que la faute existe? Est-ce que la faute n'existe pas? Qui suis-je? Est-ce que je suis fictif ou est-ce que je suis réel? Ça remet tout en cause, ça.
Mais le libre arbitre, on est limité.
Ça aurait été tellement plus simple de dire qu'on est des êtres composés. On est des êtres composés. Tout est composé. Tu prends une table, elle est composée. T'as du bois, t'as des vis, t'as du fer. Bon, ça se décompose. C'est une table, elle se décompose. Donc ça me dérange pas. Tant que c'est composé, ça me dérange pas. Mais dès que tu dis que c'est pas un être composé, c'est un seul, tu dis mais comment ça marche? Alors on va aller un peu dans les mots si vous voulez. Il explique longuement. Donc même Pirouche, ça veut dire Shegam arrête sa chombrit chilirim leyesh gamour. C'est à dire que si on réfléchit bien à ce qu'on a dit, on arrivera à la conclusion. Et préparez-vous, ça va être très fort ce qu'il va dire ici. Ah bon? On va arriver à la conclusion. Shegam arrête sa chombrit, que même la terre grossière, Sheniret yesh gamour leenkol, qui apparaît aux yeux de tous comme une parfaite existence. Yain vefes mamash le gabe akadosh banchu, n'est qu'en fait que rien est néant devant Hachem. Qu'est-ce qu'on raconte là? La terre dans laquelle on vit, qui est une existence parfaite, c'est une existence, c'est inévitable, c'est vrai, c'est pas du faux ça. T'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas une fiction?
Dans le rêve aussi, quand tu rêves, c'est pas une fiction.
Alors, non, c'est dans le rêve. C'est une réalité, parce que la Torah nous dit, Bereshit bara Elokim et Hashemayim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donc il a créé le ciel et la terre. On te parle de lumière, on te parle du ciel, on te parle de terre, on te parle de tout. Donc tu as créé. Donc c'est une vraie création. Et pourtant, même la terre la plus matérielle que tu puisses voir, qui a l'air devant, pour toi, qui a l'air une existence parfaite, sache qu'en vérité, devant Hachem, c'est rien et néant. Mais ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que comment je peux comprendre que la terre, en même temps, elle existe, en même temps, elle est néant devant Hachem?
Qu'est-ce que ça veut dire, néant?
Néant, ça veut dire qu'elle est inexistante. Elle a aucune existence propre.
Elle dépend, Hachem.
Non, c'est pas seulement dépend. Tu vois, quand tu dis le mot dépend, c'est comme un employé qui dépend de son patron. Mais l'employé, c'est pas le patron.
Enfin, je sais pas, je suis pas tellement d'accord avec cette analyse.
Attendez qu'on la comprenne d'abord, après vous allez être d'accord.
Non, pour la terre déjà. Parce que justement, dans Bereshit, il dit, quand la, il dit que la terre, elle n'existait pas.
Tout bouille,
voilà,
c'était rien.
Bien. Mais dans le texte, il dit, Ve'aretz haïta toho babou. Elle était. Si tu me dis que la terre était, ça veut dire qu'elle existait.
Non, ça s'appelle pas terre d'abord.
Si. Mes lunettes étaient sur la table, voilà, ils sont plus. Donc, ils étaient, et les lunettes, ils existaient. Ve'aretz haïta toho babou. La terre existait, était tôt.
Elle était à l'instant de la création.
Donc elle existait. Qu'est-ce que tu as créé?
Mais non, pas du tout.
Avant la création, elle existait. Haïta.
Monsieur Benita.
Au passé.
Il y a le verset 1 et le verset 2.
Oui,
ben le verset 1, il te dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc avant qu'il a créé, il n'était pas là.
Oui, mais après...
Attendez. Après, on te dit, et la terre était tôt ou vavou. Non, c'est verset 2, deux secondes. Oui. Ça veut dire quoi, la terre était au vaou? Ça veut dire que, au moment où Dieu a créé le monde,
matière.
La façon comment Dieu a créé le monde, la terre était toute mélangée. Mais avant le verset 1, il n'y avait rien.
D'accord. Mais
il y avait rien, mais il y avait tout.
tu me dis, il a créé le monde, il a créé le ciel et la terre, et tu me dis la terre était, donc elle existait, et si elle était, donc qu'est-ce que tu as créé? Et le ciel, comment il était? Pourquoi tu me donnes pas la description
la
du
terre,
ciel?
La terre, c'était comme ça, et après, connaissez, il a regroupé, il a fait la terre.
Vous connaissez le Adonola, ma chère Malar?
Adonola, il a fait la terre.
La chanson, elle est très belle, oui. C'est un texte qui a été composé, si je me souviens de son nom, par Rabbi Saadia Gaon.
Tu vas loin, elle disparaît.
C'est un texte très ancien. À mon avis, c'est le texte le plus compliqué qu'on a aujourd'hui. Le plus complexe. Je vais vous traduire. Vous allez voir, c'est un texte qui est très compliqué. D'ailleurs, c'est écrit, bon, c'est déjà passé Rosh Hashanah, mais c'est écrit que celui qui a une grande kavana dans Adon Olam, Rosh Hashanah Yom Kippour, donc tous les matins Rosh Hashanah Yom Kippour, qui dit Adon Olam, qui a une grande kavana, c'est une grande ségoula pour ne pas fouetter pendant l'année et avoir plein de brachot. Adon Olam. Alors, qu'est-ce qu'on dit Adon Olam? Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, qui a régné, Bete Remkol Yitzur Nivra, avant que toute créature soit créée.
Qui a régné avant?
Le maître du monde qui a régné avant que toute créature soit créée.
Non, sur quoi elle a régné?
Eh bien.
Bah oui.
Voilà, j'ai fait la première phrase. Hein. Vous connaissez Adon Olam? Adon Olam, Asher Malach, voilà. Bon. Adon Olam, Asher Malach, Bete Remkol Yitzur Nivra, d'accord? Le Et Naasa Bechef Tzokol, Hazai, Meler Shemonikra. Maintenant, lorsque Dieu a créé par sa volonté tout, alors son nom a été appelé roi. Mais tu m'as dit qu'il a régné avant. Je sais pas quoi, c'est la deuxième phrase. Hein. Ensuite, mais après que tout est terminé, l'évado imlach nora. Seul, il règne de façon redoutable. Seul, il règne de façon redoutable. Seul. Veouaya, et il était. Veouové, et il est. Veouillé, et il sera. Betifara, toujours aussi beau.
Aussi beau.
Aussi beau. Veou echad, il est un. Vencheni, et il n'y en a pas deux. Le Hamshillo, le Arbira. Pour le dominer, pour le composer. Hein? Donc, ça veut dire que, non, justement, il est un et il n'est pas deux pour le dominer et pour le composer. Ça veut dire que.
Ça veut dire qu'il réunit les deux à la fois.
C'est-à-dire que quand tu mets deux éléments, quand tu fais composition de deux éléments, t'as un autre, t'as forcément un élément qui a une emprise sur l'autre. Il n'est pas. Bon.
Donc il n'y a pas un deuxième élément qui.
En fait, tout ce que vous voyez dans le Tanya là, c'est écrit dans Adonolam.
Non, non.
Tout ce que vous voyez, maintenant on comprend ce que c'est rendu à Adonolam, mais c'est très complexe. Bon, on va reprendre le début déjà d'Adonolam. On dit Adonolam Asher Malach, parce que le Morozakel cite souvent l'Adonolam, dans le Tanya. Donc, le maître du monde qui a régné avant que toute créature soit créée. Mais il a régné sur qui alors?
Sur rien.
Donc il n'a pas régné?
Non, ça veut dire qu'il était seul. Régner, ça veut dire qu'il était seul.
Il a régné sur qui?
Mais s'il n'a pas de sujet.
Ça veut dire qu'il était seul.
Il y a des gens qui sont assis chez eux dans leur canapé, ils disent je suis le roi du monde.
Oui, mais c'est le roi du monde.
Il dit juste, les sujets, ils sont pas arrivés, mais moi, je suis un roi.
Mais attends, il a raison. Même seul, tu règnes au royaume des bornes, au royaume des aveugles.
Mais un peuple.
Mais tu règnes sur qui?
Mais sur rien, mais tu es seul. Mais tu
donc tu règnes pas?
Mais si.
Non?
Mais si. Tu es seul, tu es le seul.
Non. Qui te domine? Tu règnes.
Tu règnes sur quoi?
Il y a personne qui te domine, c'est toi qui règnes.
Mais si tu es tout seul, tu peux te déclarer ce que tu veux.
Si tu n'es pas zéro et que tu es un, c'est que tu es un.
La Gemara a dit, c'est la Gemara qui parle de ces mots, mais. En meler, exactement, voilà, c'est les mots de la Gemara. En meler beloram. Il n'y a pas de roi sans peuple.
C'est normal.
Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un peuple qui dit vive le roi.
Bah oui.
Et le roi tire sa royauté du peuple qui le proclame en tant que roi. Et dès que le peuple cesse d'avoir confiance dans le roi n'est plus roi.
Ça veut dire qu'il y avait une autre création avant la création.
Ah.
Il y a d'autres mondes avant.
Alors voilà, il a réussi. Oui.
Alors donc peut-être c'est là. La complexité
à laquelle veut répondre la Donolam, répondre sans répondre, c'est est-ce que la création du monde a changé quelque chose en Dieu? Parce qu'avant il était seul, maintenant il est plus seul. Avant il était seul, maintenant il est plus seul. Viens te répondre la Donolam, il te dit non, rien n'a changé. Dieu il était toujours seul avant et il est toujours seul maintenant. Mais comment il est toujours seul? Nous on est quoi? Nous on est quoi alors? Moi je suis quoi? Moi j'existe pas. Je suis pas indépendant. Je suis quoi alors?
Éphèse.
Alors Éphèse, alors je suis qui alors? Si je suis Éphèse, alors j'ai qu'à faire de le bêtise que je veux.
Mais là, c'est difficile parce qu'on est en train de me dire, voilà, il y a un très grand chirurgien, il sauve les vies, il est très fort, tout le monde le connaît, il soigne toutes les maladies et tout ça. Il peut tout faire des miracles, mais il n'a pas de patient. À quoi il sert?
À rien.
Eh ben, donc Dieu, c'est la même chose s'il n'a pas le peuple avec lui. Comment il peut être si... Dieu, c'est pareil. Avant, s'il était tout seul, comment il peut être roi?
Donc, c'est exactement cette idée que veut expliquer la Donolam. Très compliqué comme idée. Expliquer l'idée qu'en fait, Dieu n'est pas un être composé, qu'il n'y a pas des étapes chez Dieu, il n'y a pas avant et après. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas des paliers, d'accord? Tel niveau, il n'y a pas. Tout est la même chose. C'est une folie, ça. Et c'est ça, en vérité, le secret du chemin Israël. Ce soir, quand on va faire chemin Israël dans le Kriyat Shema, dans l'Arvit, etc., on aura une autre lecture. C'est pas chemin Israël, Dieu est un, il n'y en a pas deux. Bien sûr qu'il n'y en a pas deux. Qui pensait qu'il y en a deux? Je ne me suis pas levé ce matin en pensant qu'il y en a deux. Mais de comprendre, de se dire que Dieu qui transcende le monde et Dieu qui est dans la nature, c'est la même chose. Et qu'en vérité, le monde est néant devant Hachem, ça c'est très compliqué. Parce que j'ai du mal. Comment tu veux qu'avec mon cerveau qui n'est pas néant, j'arrive à comprendre que je suis néant? Je suis pas néant, je suis là. Ça rend fou, ça.
Et là aussi, c'est au début quand il a dit, bon. Il a créé ex nihilo.
Monsieur Benita, on va avancer un petit peu.
Là aussi, c'est pareil.
Velachen, c'est pour cela. Kishem Elokim, troisième paragraphe. Kishem Elokim et Nomalu Metsemsem et la Tartonim et la Gabakadajonkou. En effet, le nom Elokim est certes une dissimulation, mais c'est pas une dissimulation, comment on appelle ça? Ce n'est pas une vraie dissimulation. C'est une dissimulation que pour les êtres humains. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que Dieu se cache. Mais en vérité, Hachem, Hu Elokim. Dieu ne se cache pas. La nature n'est pas une forme différente d'Hachem. C'est le même Hachem. Seulement moi, l'être humain, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu est en train de donner exactement le même message à l'enfant de 5 ans et à l'adulte de 30 ans. Même message. Seulement l'enfant de 5 ans, il le perçoit comme un enfant de 5 ans. Il croit qu'on lui a donné un message à l'enfant de 5 ans. Ça complique encore les choses, ça. Ne vous inquiétez pas, on va voir plus clair. Donc, Hachem Elokim, et nous allons nous donner le cabot de Jérôme, mais Hachem ou Shmo Elokim Echad. Parce que Dieu et son nom Elokim ne font qu'un. Dieu et le nom Elokim ne font qu'un. Hachem ou Elokim.
Bon, enfin, c'est ce qu'il est en train de nous dire depuis le début, hein.
Oui, mais bon. Il explique, là. Ah, c'est très compliqué, ce qu'on disait. Ah, monsieur Benita, si vous avez compris ce qu'on est en train de dire, je vous embrasse le pied.
On l'a pas les
bah, Ah oui, Hachem ou Elohim. Un seul et même personnage.
Je vais vous raconter une histoire, monsieur Benita.
Et il est unique.
Voilà. Parce qu'on on s'approche des 8 têtes qui se lèvent. 19 qui se lèvent.
Ouais.
L'Admor Hazaken, fondateur de la Chassidut Chabad, il n'est pas né dans une famille Chabad. Il n'est pas né dans une famille chassidique. Il est né dans une famille lituanienne où on n'étudiait pas la Chassidut. Et lorsqu'il est arrivé à un certain âge, il s'est marié jeune, et il a voulu avancer dans la Torah. Et à l'époque, il y avait deux grandes écoles de pensée. Il y avait Vilna, et il y avait Meserich. Vilna, c'est où il y avait le Gaon de Vilna, grand Gaon de Vilna, et Meserich, où il y avait le grand Magui de Meserich. Maintenant, ce qu'on disait à l'époque, on disait comme ça, on disait, à Vilna, on étudie la Gemara. La Gemara, la Poskim, etc. Et à Meserich, on va étudier les profondeurs de la Torah. On va apprendre à prier. Ok. Bon, maintenant, dans les faits, c'est faux parce que dans les deux, on faisait les deux. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Parce que c'est vrai que l'accent était plus d'un côté sur l'autre, d'un côté sur l'autre. Donc, Admor Hazaken, à l'âge où il se pose la question quelle direction il va prendre, il connaît déjà le chasse par cœur, tout le Talmud par cœur. Il connaît déjà les poskim, les décisions par cœur. Il connaît déjà Shouchanahour par cœur, il connaît déjà tout par cœur. Donc, il étudie la Gemara. Je pense que je sais un petit peu. Par contre, prier, je sais pas prier. Il dit, je vais aller faire un tour chez Magui de Meserich. Et il va faire un tour chez Magui de Meserich. Et donc il demande sur l'autorisation à sa femme. Son beau-père était contre. Son père dit, qu'est-ce que tu vas perdre ton temps, tu laisses ta femme, tu viens te marier, etc. Enfin, je crois que c'était un an après son mariage, mais bon, quand même. Parce qu'à l'époque, c'est un voyage. Juste le voyage, il prend un mois et demi. Donc tu vois, tu fais pas un voyage d'un mois et demi pour rester un mois. Tu fais un voyage, il est resté, je crois, 6 ou 7 mois. Et donc, il a demandé autorisation à sa femme, elle est d'accord, son beau-père ultra contre. Ok. Donc, il a fait le voyage, il est arrivé, dès qu'il arrive à Meserich, il était déjà une certaine heure du matin, il était déjà, je crois, 10 heures du matin, et ouais, les gens, ils sont en train de prier encore. Il n'a pas compris, il dit quoi ce délire, 10 heures du matin, en train de prier. Il croyait qu'ils sont levés en retard, c'est quoi 6 heures. Donc, il a repris ses affaires, il est parti. Non, il a fait quelques kilomètres et il s'est rendu compte qu'il a oublié son écharpe. Il a oublié son écharpe. Alors il est revenu pour chercher l'écharpe.
Il est pris encore.
Et quand il est revenu chercher l'écharpe, là il était déjà en train d'étudier. Et là il a écouté comment le Maguid Mezerich expliquait une Sugya de Gemara. Il était bluffé. Finalement, il voyait comment le Maguid Mezerich, il l'amenait dans les coulisses de la Gemara, dans les sphères célestes de la Gemara. Et là tout de suite il est resté. Bon, après il est resté. Il est resté un certain temps. Et dès qu'approchait la date qu'il avait dit à sa femme qu'il allait rentrer, il a fait la route de retour. Il revient dans sa ville. Et bien sûr, on l'accueille, etc. Bon, son beau-père lui fait la remarque, il passe un savon, mais ça, il s'attendait. Son beau-père, la belle-mère, ils ont fait des misères. Et après, le beau-père, il lui dit, dis-moi, bon, alors t'es parti 9 mois, je sais pas combien, 8 mois, 9 mois, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris?
C'est rien.
Alors il a dit, la Mourazakane répond, il dit, j'ai appris que Dieu existe. Alors bien sûr, il s'est éclaté de rire, le beau-père. Il a appelé la servante qui était là, et il dit, dis-moi, d'après toi, qui c'est qui a créé tout ce monde? Il dit, c'est évident, c'est Dieu existe et Dieu a créé le monde. Il dit, tu vois, elle n'a pas fait de hautes études comme toi, elle me répond ça tout de suite. Elle n'a fait aucune étude, illettrée. Alors il a répondu, la Mourazakane, il a dit, non, mais elle le dit, elle le sait, mais moi je le comprends.
Eh, c'est ça.
C'est ça. C'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire que Dieu est tout, que Dieu dirige tout, etc. Ça, je peux vous le dire sans faire le livre. Je dis, bon, bah, Dieu dirige tout, c'est la Emouna, etc. C'est quoi le but de Shaïkhou de la Emouna? Veyadata, c'est essayer de comprendre ça. De comprendre. De comprendre, ça veut dire que Dieu est un. Dire Dieu est un, je peux le dire. Mais est-ce que je peux comprendre?
Faut l'intégrer.
L'intégrer. Et même, et à la limite, même comprendre que je peux pas comprendre. C'est déjà pas mal, ça. Comment il dit Maïmonide? Il dit, Tachlit Ayedia chez l'Oneda. Le summum du savoir, c'est de ne pas savoir. Ça veut dire que quand tu réfléchis, quand tu comprends quelque chose, oui, le niveau le plus élevé, c'est un niveau dans lequel tu comprends que la chose te dépasse. Là, tu as compris. Tant que tu crois que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris.
Platon, il a dit pareil. Hein. Je sais que je ne sais rien.
Oui, c'est pas mal. Bon.
Jean Gabin, la
copie de la
ce qui me reste à découvrir, c'est tellement important que ce que je sais, c'est rien.
Non.
Je sais que je sais
rien. Non, ça c'est pas pareil, ça. C'est pas pareil.
Mais quand même. Parce que pour essayer d'intégrer,
comprendre que ça me dépasse, c'est très difficile, ça.
Non, mais dès que tu quantifies.
Mais comprendre, pas juste dire j'ai pas compris. Il y a deux types de j'ai pas compris. T'as le j'ai pas compris de l'imbécile et t'as le j'ai pas compris du savant.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Il dit pas ça. Il dit ce que j'ai à découvrir, c'est encore beaucoup plus important que ce que je sais.
Même chose.
Ce que je sais, je le sais déjà.
Voilà.
Là, ce qu'il te dit, c'est pas ça. C'est ce que tu sais, tu comprends mais que ce que tu sais, c'est rien par rapport à ce
non,
que
mais
je...
c'est ça quand non, il te dit. Il faut. Il faut
que tu n'as rien compris.
C'est savoir. La force est d'intégrer. C'est ça, c'est.
Bon.
Quand t'as intégré, c'est bon.
Il faut toute une vie hein, pour intégrer.
Et quand tu crois que t'as intégré, tu te rends compte que
c'est compliqué.
Comment intégrer autant?
On va avancer un petit peu. Donc, Velachen, c'est pour cela, au milieu de la page. Gam aretz mitachat la aretz, même la terre et tout ce qui est en dessous de la terre. Em ayn ve'efes mamash le gabei kadosh baruch hu sont rien. Et néant vraiment devant un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la réalité qui est autour de nous, c'est du néant. Devant Hachem, c'est du néant.
Tout ça. Bon, c'est comme le rayon de soleil.
Mais c'est très difficile ça, parce que je comprends pas.
Alors pourquoi il a créé le néant?
Alors exactement, c'est pas seulement ça. C'est que s'il a créé, d'abord pourquoi il a créé le néant, et en plus si tu dis que c'est du néant, alors vas-y, en fait, on a qu'à faire ce qu'on veut, de toutes les façons c'est du néant. Quand tu dis à une personne, tu dis écoute, toutes les façons, tout ce que tu fais, ça vaut rien. C'est pas ok, bah si ça vaut rien.
Alors pourquoi respecter?
Respecter.
Non mais
c'est. Oui, Nanikraot Beshem Kla, la fil ou Beshem Od, chez le Shem Tafel.
Non mais si on parle du
principe. Il a dit En Od. En Od.
Il n'y a pas d'autre.
C'est quoi En Od?
Il n'y a pas un autre.
Il n'y a pas un autre. C'est quoi le mot autre? C'est que des fois, hein, tu veux dire, ok, tu sais quoi? Je comprends qu'il n'y a rien à part Dieu. Mais je vais employer le terme Od. Autre. C'est pas quelqu'un, c'est pas une autre entité. C'est de dire qu'il y a au moins quelque chose qui est un petit peu étranger. Od, encore, avec.
Un autre.
Non, c'est même pas. La vraie traduction de Od ici, ça veut dire. Je sais pas comment vous donner un exemple.
Il y a deux.
Voilà. J'ai vidé le verre. D'accord ? Il reste 2-3 gouttes dans le verre ici. Ok ? Maintenant, les 2-3 gouttes par rapport au verre, ils sont insignifiantes. Ça s'appelle du odd, ça. Ça veut dire que ça va avec le verre. Donc on aurait pu dire, écoute, je suis d'accord, on est tous annulés devant Hachem, on est comme la petite goutte qui est dans le verre, que bon, elle est insignifiante, mais il y a quelque chose quand même.
Ça fait pas cas.
Il te dit non. C'est même pas que c'est un odd, c'est un truc qui est en plus. N odd.
Mais dis merci trop tôt.
C'est pas odd. Il y a rien. Il y a rien par Hachem. Hachem, où est Elohim ? C'est tout ce qu'il y a. C'est très compliqué. Et ça, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, après 40 ans qu'il les a accompagnés, après 40 ans qu'ils ont étudié la Torah, il leur dit, maintenant, je vais vous donner le scoop. Mais Yadata Hayom. Maintenant, aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre que Hachem ou Elohim.
Ok, d'accord, ouais. Ok. Il n'y a rien à côté. Tout ça, j'ai compris. Mais à quoi ça sert de savoir alors qu'on ne peut pas comprendre? Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la finalité de la...
J'ai compris.
Pas comprendre que ça veut
dire. Tu sais que... J'ai compris. Je vais formuler ta question un peu différemment. Finalement, pourquoi on étudie... Pourquoi on fait un cours de Tania comme ça, sur ça? On aurait pu faire un cours de Halakha, sur le jeu qu'on comprend, etc. Pourquoi tu veux que je fasse un cours sur quelque chose que je comprends pas? C'est vrai, à quoi ça sert? C'est une perte de temps. Tu veux m'expliquer que j'ai pas compris? Ok, dis-moi je suis remarque, c'est plus simple, j'ai pas compris. C'est une mitzvah de la Torah de chercher à comprendre Hachem. C'est une mitzvah.
Mais il me dit, je peux pas le comprendre.
C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. S'il n'y avait pas cette mitzvah, tu as raison, Michael, on aurait dit, écoute, laisse tomber, Hachem, on comprend pas, ne touche pas, garde la émouna d'un bébé, ne touche pas, c'est bon, reste comme ça. Très bon, c'est pas de problème. Mais c'est une mitzvah de la Torah de mettre tout son cerveau de chercher à comprendre Hachem. Donc si tu as un cerveau de moineau, bah, tu vas comprendre comme un moineau. Et si tu as un cerveau de génie, et bah, tu dois utiliser tout ton cerveau de génie pour essayer de comprendre. Alors, même si à la fin, tu ne comprendras pas. Mais comprendre que tu n'as pas compris, c'est déjà un niveau. Mais c'est une mitzvah. C'est ça Shema Israël. Parce que Shema Israël, c'est quoi Shema Israël? Comment on dit Shema?
Écoute.
Qui c'est qui me parle? Écoute, qui c'est qui me parle? Chemin, ça veut pas dire écoute.
Non, ça veut dire que l'oreille, que ce que tu entends, elle te change.
Mais qui parle? Qui me parle?
Chemin Israël.
Qui parle à qui? C'est moi qui ai dire Hachem?
Hachem qui dit au Bnei Israël.
Non, c'est faux. Là, maintenant, tout à l'heure, je vais faire le schéma. On se rend même pas compte, en vérité, des choses qu'on dit. Tout à l'heure, tu vas faire le schéma. À qui tu parles? Tu dis écoute Israël! À qui tu parles? C'est qui Israël? C'est moi? Donc je me parle à moi, j'y écoute Mendy.
Non, on demande à
Shema en hébreu, ça veut pas dire écoute.
Entendre.
Shema en hébreu, ça veut dire entendre dans le sens comprend. Comprend, réfléchis, réalise. Et Israël, c'est moi. Donc je me parle à moi-même. Et je dis, réalise ce qu'on est en train de te dire. Hachem et Elokeinu. Hachem et Elokim, c'est la même chose. Parce que toi, tu comprends, quand tu t'imagines Dieu, tu dis, ah, Dieu, il est tout en haut, Dieu, il gère le monde, Dieu, il fait les grandes choses. Mais tu t'imagines pas que Dieu aussi, c'est les petites choses, c'est ta vie tous les jours. Tu dis, non, ça c'est moi, ça, Hachem, c'est moi. Hachem, Elokeinu, c'est la même chose. Hachem est notre Elokim. Mon Elokim à moi, mes petites réalités de la vie tous les jours, c'est Hachem, c'est la même chose. Hachem Echad. Hachem est un rien d'autre à part lui. Très difficile à comprendre. Mais on a une mitzvah de méditer à ça le maximum qu'on peut. De méditer qu'il n'y a rien à part Hachem. Que tout est néant devant Hachem. Tout est néant. Et pourtant, ça existe. Parce que ça aurait été tellement plus simple de dire, ok, alors tout est néant, c'est un rêve, c'est Matrix, ok, c'est... Bon, on croit qu'on vit dans un rêve.
Si c'est néant, à ce moment-là, bon...
Eh ben non.
C'est m'attacher à qui?
C'est un néant. On a un ressenti d'existence, mais en vérité, c'est un néant. Hein, c'est quoi?
C'est quel est le but de Dieu? Sachant qu'on n'est pas censé savoir ce qu'il est, qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il est, et finalement il crée un univers avec des êtres humains.
Non, je comprends.
Et après, on fait quoi alors? On fait quoi?
Je comprends. La Gemara nous dit, je comprends très bien votre question.
Tu vois, à la limite, tu vas étudier.
Dans les faits.
Et machin, mais après, quand tu vas plus loin, on dit que tu ne vas pas comprendre.
Dans les faits, quand vous devez fixer une halakha, par exemple, le Talmud dit comme ça, il dit En la Dayan et la Machéna Vroot. Le juge n'a que ce que ses yeux ont vu. C'est-à-dire qu'un juge ne peut pas commencer à dire j'ai appris dans le Tanya que Dieu, etc. Ça ne marche pas, ça. Quand tu dois faire une halakha, est-ce que tes yeux ont vu? Donc c'est évident que tout le débat qu'on a aujourd'hui maintenant, c'est pas un débat qui est halakhique du tout. Du tout. Parce que quand tu dois réfléchir à la halakha, tu dois avoir des choses concrètes. Tu veux dire, ça c'est un gâteau, c'est cachère, c'est pas cachère. Ça c'est de l'eau, ça c'est une table, c'est cachère, c'est pas cachère. C'est des choses concrètes. réaliste.
Donc la halakha, elle concerne le matériel.
Bien sûr. Mais... Parce que la halakha, c'est ce que le juge voit avec ses yeux. Mais ça n'empêche que même si je sais que je vis dans un monde matériel et que je vais juger les choses par rapport au look matériel qu'elles ont, je dois quand même comprendre avec mon cerveau qu'en vérité tout ça c'est néant. Alors que moi-même je fais des halakhot en considérant cette chose, parce que c'est vrai, si c'est néant, qu'est-ce que ça change si je mange un truc cachère ou pas cachère? De toute façon c'est néant. 0 plus 0 est égal à la tête de...
Tapiero.
De Toto, d'accord. Ah ça c'est au Maroc ça.
Tout ce qu'on fait, ça compte pour ici, ou ça compte pour après? Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'homme, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il étudie,
oui.
Est-ce que c'est pour ici? Parce que c'est après pour les tout ce qui est au-dessus.
Qu'est-ce que ça change?
Parce que là, dans le monde en haut, on dit on parle des âmes, des néchamotes et des anges.
Mais même les néchamotes. Mais même c'est ce qu'on est en train de te dire, c'est que même ce que tu veux dire par rapport aux néchamotes et par rapport au Gan Eden et par rapport aux, et par rapport aux anges, etc. Oui. C'est walou. C'est annulé combien de
vaches? Pourquoi?
Pourquoi c'est annulé? Hein?
Pourquoi tout ce travail ici alors?
Ok, c'est une autre question. Vous avez posé
quelque chose. C'est ça. C'est que tu dis voilà, t'apprends.
Okay.
Jusqu'à 120 ans et après, boum.
Non, attention. Néant, ça ne veut pas dire que ça sert à rien.
Mais ça sert à qui?
C'est Hachem. Hachem, il a demandé.
Attends, il te dit, tu ne cherches pas à comprendre.
Non, Hachem, il a pas dit. Hachem, il a jamais dit, cherche pas à comprendre.
Non, mais si...
Attendez, je m'excuse de vous reprendre.
Non, mais quand
attendez, deux secondes.
Un enfant,
c'est très important. C'est très important.
Tu vas Michel,
écoutez bien ce que je veux dire. C'est très important, ça. Personne, Hachem n'a jamais dit dans la Torah ne cherche pas à comprendre. Jamais. C'est pas dans notre religion ça. Jamais quelqu'un t'a dit ne cherche pas à comprendre. Ça n'existe pas. Juste qu'on te dit, sache que si tu n'arrives pas à comprendre, ne sois pas choqué.
Oui, c'est vrai.
Personne te dira ne cherche pas à comprendre.
C'est
contraire complètement à... Vous pas, prenez une page de Gemara. Dans la Torah, on doit tout décortiquer. Et même ce qui n'est pas décortiquable, on décortique. C'est pas grave, j'arriverai pas.
Il me dit, je cherche pas à comprendre.
Personne te dit, je cherche pas à comprendre.
Il me dit de comprendre le néant.
Ça, je comprends.
Non, il te dit, comprends que c'est du néant. Après, t'as le droit de dire, j'ai pas réussi à comprendre.
Qu'est-ce que je peux comprendre dans le néant?
Mais c'est pas grave.
Oui, mais.
Mais toi, tu dois chercher à comprendre. Parce que le point où tu vas arriver, ce sera peut-être plus loin que le point où notre est arrivé.
J'arrive à la fin de ma réflexion et voir que c'est le néant, donc j'arrête.
Oui, mais.
C'est le mot néant, c'est le dernier.
Merci.
Il cherche à faire un monde meilleur après par la suite pour.
Néant, ça veut pas dire inexistant. Néant, ça veut pas dire vide.
Voilà. C'est-à-dire qu'il peut organiser le néant.
D'accord. Il va expliquer. C'est quoi néant?
C'est quoi néant?
Voilà.
C'est
ça.
C'est quoi la définition du néant là?
Le néant.
Alors, on y va. On va continuer.
C'est nul. Non.
Français, c'est néant. Néant.
Alors, on va essayer de donner quelques exemples maintenant pour expliquer à quel point c'est très profond ce qu'on est en train de dire.
J'ai une idée, moi.
Si je vous dis par exemple, le corps et l'âme. Le corps et l'âme.
L'âme,
mon âme, d'accord? Oui. Lequel est le principal et lequel est le secondaire? Quand je dis le corps, ça veut dire par exemple, voilà, imaginez, j'ai mon œil qui est en train de vous voir, donc il y a le corps de mon œil, il y a une énergie, ce que je vais appeler l'âme, ok, qui fait que je vois. Lequel est l'essentiel et lequel est le secondaire, d'après vous? Évidemment.
Ils sont essentiels tous les deux.
Non, pas du tout. Évidemment, le corps est secondaire et l'énergie est principale. La preuve, c'est qu'un corps inerte ne marche pas, ne fonctionne pas. Donc, alors que l'âme, ça veut dire que ce qui fait vivre, c'est l'âme. Deux secondes. Mais néanmoins,
sans le corps aussi, elle ne vit pas.
Deux secondes. Oui, je comprends. Mais concrètement,
l'énergie.
Voilà, c'est-à-dire un corps sans énergie ne sert à rien. Ça n'existe pas.
Un corps mort. Un corps mort. Un corps mourant.
Le corps d'armée aussi.
Corps mourant.
Vous avez par exemple, regardez. Pas longtemps, j'ai ma voiture qui est tombée en panne. Un dépanneur qui vient la chercher dans le garage. Bon.
Une panne.
Vous êtes bien assuré au moins.
Bah, au rachat, l'assurance, il vient avec la main. Bon. Quand il y a le dépanneur qui t'arrive, tu te rends compte que une voiture sans moteur, c'est un tas de ferraille.
Ouais. Ça vaut rien.
Un tas de ferraille. Tu as la voiture à la vente, etc. Un tas de ferraille.
Ouais.
Ça veut dire que de la matière sans énergie, avec ça. C'est juste un exemple. Donc, de la même façon, si tu compares le corps et l'âme, tu vas dire, ah bon, le corps est secondaire et l'âme est essentielle. Mais, même si le corps est secondaire par rapport à l'âme, le corps n'est pas inexistant par rapport à l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Le corps existe par rapport à l'âme. Donc on aurait peut-être voulu dire la même chose par rapport à Dieu. On aurait voulu dire, Dieu c'est l'âme, et moi c'est le corps. Bon, il me donne l'énergie, mais tu dis non. Même parler comme ça par rapport à l'âme, tu peux pas dire ça. Ça veut même dire que Dieu c'est l'énergie et moi c'est le corps, tu peux pas dire ça. Parce que Hachem, devant Hachem, tu es néant complètement. Tu es même pas comme un corps devant une âme. Tu es néant à 100%. À 0%, à 100%, comme vous voulez.
Alors avec les apôtres, là, comment il s'est... Et comment il a communiqué?
Qui c'est les apôtres?
Les apôtres, les...
Charles.
Rassurez-nous.
T'as changé
de...
Non, pas les...
Là, il est mort parce qu'il a vu...
Les prophètes.
Avec les patriarches. Comment il a communiqué? Comment il parlait avec eux?
SMS.
Mais monsieur Benita, personne n'a dit que néant, c'est faux. Quand on dit que c'est néant, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est pas, j'ai personne dit que c'est faux, c'est pas faux ce qu'on vit. Notre réalité est une vraie réalité. C'est pas faux.
Ça veut dire quoi néant alors?
Néant, ça veut dire que ça n'a pas d'existence propre. Vous comprenez? Ça veut dire que, si, par exemple, si je reprends l'exemple du corps et de l'âme, c'est vrai que le moteur par rapport à la, je veux dire, l'énergie par rapport au corps, c'est clair que c'est l'essentiel. Mais le corps a quand même une existence. Il existe, le corps. C'est le conduit par lequel l'énergie va passer. Donc il a une existence, il a une utilité. Il sert pas à rien, il est pas néant.
Même plus que ça.
D'accord.
C'est Kipanoga, il y a des...
Il y a quelque chose, il y a une énergie dedans. On te dit, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, tout est néant. Ah, je le sens pas. Alors t'as un problème, tu le sens pas. Ok. C'est pas parce que tu le sens pas que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tout est néant.
Pour lui, tout est néant.
Devant Hachem, tout est néant.
Il te recrée à chaque fois, plusieurs fois la seconde.
Oui, allez-y.
Excusez-moi. Il recrée l'univers plusieurs fois la seconde.
Devant Hachem, tout est néant.
Oui.
Il ne pense pas à toi une dixième de seconde, il n'existe plus.
Comment vous voyez...
Il n'a pas l'existence indépendante.
Ouais, c'est ça.
Le voleur, l'homme qui tue. Et nous, qui faisons Shabbat, dans une vie où il faut faire des efforts, au Hachem, on doit se lever pour aller à prier, en fait, tout, quoi.
Comment on voit, c'est une très bonne question. Non, mais je vais aller même plus loin que ça, sans parler d'un voleur. Je vais parler de moi. Finalement, si tout est néant, qu'est-ce que ça change si je fais une mitzvah ou une avera?
Alors donc, j'ai du mérite quand même, non?
Oui, mais c'est la question de Michel. Bien sûr, j'ai du mérite. On n'est pas en train de dire que ce qu'on fait, c'est faux. On n'est pas en train de dire que ce qu'on fait ne sert à rien. On est en train de dire que le ressenti d'existence indépendante que nous avons, en vérité, est faux. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, c'est pas forcément mon premier réflexe, en tout cas toute la journée, c'est pas mon premier réflexe de dire « Dieu gère ma vie ». Non, Dieu gère pas ma vie, c'est moi qui gère ma vie. C'est moi qui fais mon programme. Va comprendre qu'une journée comme aujourd'hui où tu avais la pagaille avec la grève, va comprendre que il y a pas de grève. Il y a pas de grève. Il y a pas de gréviste. Il y a pas de Paris. Il y a Dieu, c'est tout ce qu'il y a ici.
C'est quand même
une approche très 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 difficile à avoir. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas que il y a Dieu et il y a les grévistes et il y a un tel, il y a monsieur un tel, il y a le travail, il y a un tel à telle heure quand il a reçu un coup de fil de sa femme, et un tel à telle heure quand il a reçu un coup de fil de son enfant, et un tel à telle heure quand il s'est énervé, un tel à telle heure quand il s'est réveillé. Ça, c'est mon vécu. Mais en vérité, dans la réalité, il y a rien. Dans la réalité, tout est néant devant un Kadosh Baruch Hu. Très très difficile à comprendre.
Alors qu'est-ce qu'il a besoin de
néant? Ça, c'est une autre question, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on aura des comptes à rendre. C'est des vrais comptes à rendre. On ne pourra pas dire, Rachel, toutes les fois, c'est pas important pour toi. Des vrais comptes à rendre. Fainéant, pas mal. Alors.
Point de départ.
Velachen. On va sauter quelques lignes parce que j'ai expliqué à l'oral. Page 83. Velachen, c'est pour cela, outrachakatou lehazir. C'est pour cela que le texte a eu besoin. 83.
Nixilo.
C'est la raison pour laquelle le texte a eu besoin de mettre en garde. Sache aujourd'hui et garde dans ton cœur, etc. Pour ne pas qu'il te vienne à l'esprit, que les cieux et toutes leurs armées, c'est-à-dire les astres, etc., et la terre et tout ce qu'elle contient, un devoir nifrad, soit quelque chose de séparé, quelque chose d'indépendant, qui a des comptes à rendre à Dieu. Mais j'aurais pu penser que, bon, j'ai mon indépendance, j'ai des comptes à rendre, c'est le patron, mais j'ai mon indépendance. Non! Ne pense pas que le ciel, les cieux, et toutes leurs armées, et la terre, et tout ce qu'elle contient, sont des éléments distincts, sont des éléments indépendants, ve'akadosh baruch hu, mais malé, kolam, kilem, shunashem, begouf, et que j'aurais pensé que non, c'est des éléments indépendants, qui sont vivifiés par Hachem. Parce que notre cerveau a tendance à penser comme ça, que je suis indépendant, mais c'est Dieu qui envoie l'énergie, et si je fais le malin, il peut couper le courant. comme ça on pense en général. Mmh. Je dis voilà, j'ai une vie, etc.
C'est pas faux,
c'est comme ça qu'on pense. On se dit, je vis, j'existe, c'est lui qui m'envoie le courant. Si je fais le malin, et ben, il coupe le courant.
Il éteint la lumière.
C'est ce qu'il fait. D'accord ? Dylan Morazaken, c'est faux.
C'est ce qu'il fait, non ?
Je comprends, mais Dylan Morazaken, c'est faux. C'est pas la bonne approche que tu as. Parce qu'en vérité, quand tu réfléchis comme ça, ça veut dire que tu as quand même une certaine indépendance devant Hachem. C'est que toi, tu existes, et lui, il donne le courant. Tu dis non. En vérité, devant Hachem, tu n'existes pas. C'est-à-dire même avoir une existence qui est dépendante de l'énergie d'Hachem, même ça, c'est pas bon. Même être comparé à un corps qui a besoin d'énergie, même ça, c'est pas bon. La vraie vérité, Enod. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est la seule fois dans la Torah où il a dit ça. Jamais dans la Torah. En général, il donne une mitzvah. Il dit, bon, fais ci, fais pas ça. Là, il n'a pas dit ça, la mitzvah. Il a dit, sache-le aujourd'hui et garde ça dans ton cœur. Ça veut dire, en d'autres termes, Moshe Rabbeinu est en train de nous faire comprendre que il faudra un effort de réflexion et il faudra un effort d'introspection pour essayer de comprendre ça, de réaliser ça. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas seulement qui nous vivifie. Nous sommes Akadosh Baruch Hu.
Tu crois ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a compris que Hachem ou Elohim?
Bien sûr.
Non, ça veut dire que ce qui n'est pas compréhensible.
Non, il a compris que c'est ça la vraie réalité. Ça ne veut pas dire qu'il a compris. C'est pas comment ça fonctionne. Mais bien sûr qu'il a compris beaucoup plus que nous.
D'accord. Okay.
Ben évidemment.
Mais l'âme, elle est importante dans le corps de l'homme.
Mm-hmm.
D'accord. Donc pour arriver à l'âme. On revient de très très loin, on va chercher la petite goutte qui va avoir des milliards à partir d'un endroit pour arriver un seul. Et de ce un seul, il va y avoir une âme qui va rentrer dans le gouffre.
Oui.
Et ce gouffre-là, il va travailler pour développer le maximum.
Très bien.
Et après, il va repartir là-haut. Donc il y a quand même un sens dans tout ça.
Mais évidemment. C'est pour ça que je dis là de moi à Zaken que appliquer cette image par rapport à Dieu, c'est une erreur. C'est-à-dire vouloir dire que de la même façon qu'il y a un corps et une âme, et que l'essentiel c'est l'âme, mais que le corps existe quand même, a son importance, vouloir dire la même dynamique par rapport à Kadosh Baruch Hu, que Dieu c'est l'âme, et nous sommes le corps, c'est une erreur. On peut pas dire, même ça on peut pas dire par rapport à Hachem.
Le fait d'avoir dans notre goût...
Mais pourtant on pense tous comme ça, hein, c'est la vérité.
Non mais le fait d'avoir...
Les gens quand ils pensent à Rosh Hashanah, c'est la Rosh Hashanah, tous les jours on est jugé, mais ils se disent pas Rosh Hashanah, on va être jugé. Comment, à quoi les gens ils pensent? Ils demandent pas à Dieu, fais-moi exister. Personne ne demande à Dieu, fais-moi exister. Parce que j'existe déjà. J'ai pas besoin de toi pour exister. Je demande à Dieu, donne-moi de l'énergie. Je donne-moi de l'énergie, j'ai un moteur, fais-le tourner. Mais tu dis, Admor Zaken, c'est pas ça ce que tu as demandé à Hachem. Demande pas à Hachem de te donner de l'énergie. Parce que même le corps que tu as, c'est lui qui te donne. Même le corps que tu as, c'est lui qui te fait exister maintenant, à l'instant. Il n'y a aucune indépendance. Zéro. J'existe. Mais zéro indépendance. Même pas l'indépendance d'un corps qui a besoin d'une âme. Même ça, il n'y a pas. Parce que un corps qui a besoin d'une âme, ça reste quand même un élément indépendant. Ça reste, il y a le corps et il y a l'âme. Chez Hachem, il n'y a pas de composition. Il n'y a pas Hachem et. En od, il n'y a pas Hachem et Mendy. Dès que tu dis le mot Hachem et, il n'y a pas et.
Pourtant, il dit...
Avec Hachem, il n'y a pas et. Très très dur ça. Il n'y a pas Hachem et moi. C'est qui et? Quand tu dis et, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui associe. Il n'y a pas et. Même dire Hachem et rien, il n'y a pas et. En od. Hachem ou Elohim, en od. Il n'y a pas de et. Il n'y a pas de et avec Hachem.
Il n'y a pas d'association. Quoi.
Et là, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il fait comprendre au Bnei Israël que Ve'adat Hayom, il faut réfléchir à ça. Il n'est pas cet avenu leur raconter qu'il y a un Dieu qui n'en a pas deux. Ça, tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui n'a pas deux dieux. C'est beaucoup plus profond ce qu'on vient de dire ici.
Ils ont pas percuté.
Bien sûr, ils ont percuté. Eux, ils ont percuté.
Oui,
mais là, vous parlez d'une génération qui a étudié la Torah pendant 40 ans avec Moshe Rabbeinu.
Non, mais après 40 ans. Non, mais avant, quand il est monté, descendu.
Oui, parce qu'on peut dire qu'avant que Moshe Rabbeinu leur dise ça, ils se disaient, bon, il y a le Dieu qu'on a vu sur le Mont Sinaï, il y a le Dieu tous les jours. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même dimension. Moshe Rabbeinu leur dit, c'est la même chose. Votre corps, votre âme, le Dieu de Kippour, et le Dieu du nom de la Torah, et le Dieu de maintenant, c'est la même chose. Kif. Il n'y a pas de « et » avec Hachem. Il n'y a pas « Hachem et moi », « Hachem et la terre », « Hachem et la bouteille ». Il n'y a pas de « et ».
Il n'y a pas d'associé.
Mais pas « et ». « Et » il n'y a pas. « En od ». C'est compliqué ça. Hein, enfin, compliqué, non. C'est, quand on comprend qu'on n'a pas compris, c'est pas compliqué. Alors, je vais vous expliquer pour que maintenant, j'explique à l'oral, hein, parce que je veux pas trop qu'on se complique. Pourquoi finalement on ne dirait pas que Hachem c'est comme l'âme et que nous sommes comme le corps?
Il n'y a pas de et.
Pourquoi? Pourquoi on est tellement dérangé par ça? Parce qu'en fait, on va parler maintenant du corps et de l'âme. L'âme, c'est Hachem qui l'envoie. Maintenant, le corps, qui a créé le corps?
Oui, aussi.
Oui, mais le corps n'a pas été créé, je veux dire, tel que nous on le voit, il a été créé par le père et la mère. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, bon, il y a un corps qui a été créé par un père et une mère, avec, bien sûr, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ok? Mais ce corps est un élément distinct. C'est-à-dire, c'est pas l'âme. Il y a le corps et il y a l'âme. C'est pour ça qu'on dit bien que le corps n'est pas l'âme et l'âme n'est pas le corps. Il y a un corps qui a été créé par des parents avec le Kadosh Baruch Hu, d'accord, par les goûts de la père, du père et de la mère, etc. Et après, on a dans ce corps, il y a un moteur qui va rentrer, qui va faire tourner, c'est le Kadosh Baruch Hu. Ok. Et plus que ça, ce corps, il va pas vivre que de la Neshama. Comment il va grandir le corps dans le ventre de la mère? Comment il va grandir le corps dans le ventre de la mère? Avec la nourriture de la mère. Donc si on se posait la question, dans l'absolu, de quoi le corps se nourrit dans le ventre de la mère? Est-ce qu'il se nourrit de l'âme? Non. Certainement aussi, mais il se nourrit pas que de l'âme. Il se nourrit aussi de sa mère. Donc là, il y a un « et ». Il y a l'âme et le goût du père et de la mère. Et l'embryon. Et la mère qui le fait vivre. Et pareil, même ce bébé, quand il va grandir après, quand on va lui dire, bon, alors finalement, allez, mène, dis, qu'est-ce qui t'a donné des forces aujourd'hui? T'as mangé? Tu te sens bien? Qu'est-ce qui t'a donné des forces? Je lui dirai, ah, c'est mon âme. Mais il n'y a pas que mon âme. Il y a aussi la nourriture que j'ai mangée. Il y a toujours un et. Donc, dès que tu parles d'une notion de corps, tout de suite, t'es en train de dire que, il y a mon âme et mon corps. Et donc, mon corps, il est autonome. C'est-à-dire qu'il a son programme. Mon âme a son programme et mon corps a son programme. Et le corps a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin, etc. Il a des besoins. La relation qu'il y a entre le corps et l'âme, c'est une relation complexe, parce qu'une relation de deux éléments distincts. Ok, on te dit la relation que tu as avec Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus simple en vérité. C'est pas une relation de un élément et un autre élément. Il y a pas de et. C'est pas un corps et une âme. Il y a pas. C'est-à-dire qu'il y a pas qu'il y a les besoins du corps et il y a les besoins de l'âme et il y a les volontés du corps et il y a les volontés de l'âme. Non. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, quand tu vois par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout est à Kadosh Baruch Hu. Il y a rien d'autre. Et là, on commence à comprendre maintenant l'exemple du soleil. Depuis le début, il nous a parlé du soleil. Ok, parce que pour donner en fait l'exemple qu'il donne souvent, c'est le rayon du soleil qui arrive jusqu'ici, qui arrive jusqu'à chez nous. Ce rayon du soleil, lorsqu'il était à sa source, est-ce qu'il éclairait?
Non.
Non. Mais pourtant,
il a fait la distance.
C'est obligé qu'il éclairait là-bas, parce que s'il arrive à parcourir des millions de kilomètres, c'est sûr que à sa source il éclairait. Et pourtant, à sa source il n'éclaire pas. Pourquoi à sa source il n'éclaire pas? Parce qu'à sa source il n'a pas de raison d'être. Il n'existe pas.
C'est ici qu'il
est. À quel moment il a une raison d'être? C'est lorsqu'il y a un éloignement qui s'est créé. C'est-à-dire que lorsque le rayon prend la distance, lorsqu'on s'éloigne du soleil, donc là, l'éloignement fait que ce rayon a une raison d'être. Mais tant qu'il est dans la boule, il n'éclaire pas, puisqu'il n'a pas de raison d'être. Ok? Donc la même façon d'expliquer l'Admor HaZaken, il veut dire que tout le tzimtzum, toute la contraction que Kadosh Baruch Hu a fait, c'est que pour nous. Donc ça, avec ça, on a répondu à la question qu'on a posée au début du cours, la semaine dernière et aussi il y a deux semaines. On a posé une question, est-ce que le Tzimtzoum est authentique? Est-ce que Dieu s'est-il vraiment contracté pour la création du monde? Oui ou non? La réponse est oui. Dieu s'est vraiment contracté, mais
comme le soleil.
La perception de contraction n'est que pour nous. Mais dans l'absolu, Dieu ne s'est pas contracté. Dans l'absolu, Dieu est présent ici, exactement comme il est présent en haut, exactement comme il était présent avant la création du monde. On le voit pas. Ça, c'est un autre problème. Je le vois pas moi. Mais il est aussi présent qu'il était avant la création du monde. Je pense que c'est très important de comprendre ça. D'abord parce que c'est une mitzvah de la Torah, comme on a dit tout à l'heure. De penser à faire un cours comme ça, chaque seconde de ce cours, on fait une mitzvah de la Torah. En plus de faire la mitzvah d'étudier la Torah, on fait une mitzvah d'essayer de comprendre Hachem. On accomplit, à chaque seconde, on accomplit une mitzvah. C'est extraordinaire.
Donc tout est Dieu.
Hein? Tout est Dieu. Tout est Dieu.
Non, on le voit pas. Comment on fait avec le libre arbitre?
Ça, c'est la question de monsieur, votre prénom. Ah.
Pardon?
Non, votre prénom.
Yaakov.
Non, parce qu'il a posé une question qui... Okay. Ça, c'est la question de Yaakov. Bonsoir. L'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire, moi, mon libre arbitre est généré par ce que je ressens. Je ressens. Et c'est pour ça que je serai jugé. Parce que j'ai ressenti. Pas par l'absolu, par ce que j'ai ressenti. Donc moi, j'avais des éléments devant moi, je pouvais décider ça, je décidais ça, ça sera décidé par rapport à ça.
C'est pas le même.
C'est tout. Mais quand on réfléchit...
Dans l'absolu, je n'ai pas décidé.
Bah, dans l'absolu, tout est Dieu, donc je peux rien décider en vérité.
en réalité, je fasse la Avera ou je ne fasse pas la Avera, je n'ai pas décidé.
Ça, j'ai pas dit ça.
Avant la faute, tu as décidé, et après, non.
D'accord. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Excusez-moi, juste une petite question.
Juste la semaine prochaine, on continuera chapitre 7, si Dieu veut. Ouais.
Enfin, c'est...
Allez-y, bien sûr, bien sûr.
C'est quand même difficile d'essayer de comprendre le néant.
Pardon. Quand on voit où l'on va finir, ce que l'on...
Vous voulez dire où on va continuer?
Ah, voilà, c'est pas pareil.
On déménage et tout.
Si vous voulez, mais quand même.
On change de vestibule. Ça change quand même pas mal de choses.
On va finir là-bas et après
on finit pas.
On finit là-bas.
C'est le corps qui finit.
Quand on voit où on va finir, et Baruch HaShem, tout ce qu'on fait, Torah, Mitzvot, on a quand même un mérite quelque part.
Mais qui a dit qu'il n'y a pas de mérite?
Non, vous voyez.
Personne n'a dit qu'il n'y a pas de mérite. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que le ressenti d'indépendance que j'ai un sentiment d'indépendance. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Est-ce que j'ai au moins un millième de pourcent d'indépendance devant Hachem? J'ai l'impression d'être indépendant.
Absolument.
J'ai l'impression d'être...
Fais ce qu'on veut. Mais...
Voilà, fais ce qu'on veut. J'ai l'impression d'avoir un certain indépendance. Je dis, écoute, lui c'est le patron, il peut couper le courant s'il veut, mais pour l'instant je fais ce que je veux ici. Et la Mourazakan veut te montrer, veut t'arriver à la conclusion qu'en vérité tu te trompes. De A à Z. T'as aucune indépendance. Même pas l'indépendance d'être un corps qui a besoin d'une âme. Même pas ça. Non, même ça. C'est... Ah, bien sûr, il y a un libre-arbitre. On ne dit pas qu'un libre-arbitre n'existe pas. On en parlera plus tard, chapitre 7 et 8. Le libre-arbitre existe. Personne ne dit que le libre-arbitre n'existe pas. Mais tu dois savoir que dans l'absolu, rien n'est indépendant d'Hachem. Rien. Rien. Parce que si tu dis qu'il y a un élément qui est autre d'Hachem, ça pose problème. Ça veut dire qu'il n'est pas partout. Il n'y a pas Hachem et. Hachem. En-od.
En-od milévado.
En-od. À méditer.
T'as pas aussi dit, on m'a dit.